Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quilliveré pour les médias francophones publics.
Le Rio de la Plata, la musique et le monde, 38e chapitre, 1936, l'année de tous les dangers. Soyez tous les bienvenus dans ce chapitre de Carrefour des Amériques, où notre rideau s'ouvre sur une délicieuse mer Caraïbe sur laquelle nous nous laissons bercer par de doux alizés. Au milieu des années 1930, la jeune Maruja Pacheco, actrice, pianiste et chanteuse argentine, est de plus en plus populaire. Elle a étudié le piano au conservatoire d'Alberto Williams et elle a beaucoup travaillé dans diverses radios de Buenos Aires. On connaît finalement peu de choses sur elle, si ce n'est qu'elle a acquis du jour au lendemain une belle renommée avec son tango Adios. Mais elle s'illustrera surtout dans différents types de chansons, notamment des boléros, comme Cuando tú me olvides, quand tu m'auras oublié, qui a été à coup sûr le premier boléro argentin. Cette chanson a connu un succès énorme, notamment interprété par le ténor Juan Arvizu, qui s'était installé en Argentine. Il était mexicain, comme l'autre vedette, le ténor Ortiz Tirado. Tous deux avaient semé dans le Rio de la Plata la graine de la chanson romantique du boléro venue des Caraïbes.
Lejanía plegará sus alas, mi desolación. Cuando tú me olvides, cruzando los mares de mi soledad, iré repitiendo a las sombras y al viento, no me quiere más. Cuando tú me olvides, no tendrán mis noches más rondas de ensueño en su del tiempo. Cuando tú me olvides, silenciosamente vivirás en mí, porque en la penumbra de mis pensamientos todos los recuerdos hablarán de ti. A través del tiempo, cuando tú me olvides, silenciosamente vivirás en mí, porque en la penumbra, pensamientos, todos los recuerdos me han
C'est dans le boléro sentimental chanté ici par Juan Arvizu à Buenos Aires qu'on trouve un beau refuge dans l'Argentine de 1936 secouée par des convulsions bien inquiétantes. 2 ans auparavant, des élections entachées de fraudes importantes ont reconduit Pedro Justo à la tête du gouvernement. Et dans l'armée argentine, 2 clans s'affrontent, ceux qui se sentent proches des démocrates européens et ceux qui ont des affinités avec le national-socialisme allemand. Le sous-lieutenant Juan Domingo Perón est nommé attaché militaire au Chili, où il devient carrément espion et accède au rang de lieutenant-colonel. Au Chili, il aurait même été chargé de s'emparer de plans militaires. Son avenir était déjà bien tracé. Au même moment, le pays est secoué par des mouvements sociaux d'envergure. Les ouvriers du bâtiment s'étaient mis en grève en octobre 1935 et en janvier de l'année suivante, celle-ci se transforme en grève générale dans toute la nation. Mais le gouvernement de Pedro Justo est catégorique. Toute opposition sera qualifiée de communiste et il déclare le parti marxiste illégal. Lors du grand rassemblement qui a lieu sur la place Once, la répression est si brutale qu'il y a, selon la police, 600 morts et 2000 arrestations. Le pays aura bien du mal à sortir de cet engrenage de la violence. En 1936, dans cette période troublée, l'Argentine est à nouveau en deuil. La dépouille du chanteur Carlos Gardel arrive le 5 février 1936 dans la capitale, depuis la Colombie via New York, Rio de Janeiro et Montevideo, où des foules s'étaient rassemblées. À Buenos Aires, une grande veillée populaire a lieu au Luna Park, et son cercueil est placé sur le ring, là où se déroulent d'ordinaire les matchs de boxe. Le lendemain, c'est une foule immense qui l'accompagne jusqu'au cimetière de la Chacarita. Le troisième mouvement du Quartetto Criollo, le quatuor argentin de Luis Janeo, par le Quartetto Janeo de Buenos Aires. Peu après les funérailles de Carlos Gardel, un impresario demande au poète Enrique Cadícamo et au compositeur de tango Juan Carlos Cobian d'écrire une sorte de comédie musicale qui relaterait sa vie. Elle est créée dans ce qui est aujourd'hui le Grand Théâtre Podestà, mais sans grand succès. Parmi les musiques, un tango intitulé Nostalgias, Nostalgie, avait été écarté. Cadícamo l'aimait beaucoup, car il lui semblait sortir du rang, ne serait-ce que par sa ligne de chant très influencée par le boléro. Il écrit alors des paroles, et le tango est ainsi créé, dans la nouvelle salle de la rue Florida, le club Charleston, là où avaient lieu auparavant les concerts de l'association wagnérienne. Le chanteur Charlo l'entend, et l'interprète sur la radio Belgrano. Nostalgias est un succès foudroyant, non seulement en Argentine, mais dans toute l'Amérique latine, tant comme un tango que comme un boléro.
Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, pa' borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos la copa alzar para olvidar mi obstinación, y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me abandonó en tu tango gris. Quizás a ti te quiere igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como el fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
Le célèbre Nostalgias, Nostalgie, interprété par Charlo. Sous le ciel bien orageux de Buenos Aires, il y a tout de même de bonnes nouvelles. En 1936 est créée l'Académie des Beaux-Arts et une conférence internationale est organisée pour la consolidation de la paix en présence du président Roosevelt, qui est accueilli par la population comme un héros populaire. D'autre part, un traité de paix avait mis fin en 1935 à la sanglante guerre du Chaco entre la Bolivie et le Paraguay grâce à l'arbitrage d'un ministre argentin. Cette paix avait été célébrée au Théâtre Colón lors de la création de l'opéra de Pasquale de Rogatis, La novia del hereje, la fiancée de l'hérétique, avec un succès jamais démenti car l'œuvre a été reprise en 1936 et régulièrement depuis. Le livret s'inspire d'un roman à succès du XIXe siècle, écrit par un historien argentin qui avait dû fuir la dictature de Rosas au Chili. À Lima, au XVIe siècle, une jeune femme tombe amoureuse d'un lieutenant anglais lors de l'expédition du pirate Francis Drake. Elle est alors enfermée dans les geôles de l'Inquisition pour avoir frayé avec un hérétique protestant. Mais le lieutenant anglais parvient à la libérer le jour même où se produit le tremblement de terre de 1579. Le pirate est ici perçu comme un homme de progrès et de liberté dans une société obscurantiste. L'air de la jeune Clarissa, l'acte 4 de l'opéra, est ici interprété par Lara Mauro, l'orchestre de la ville d'Avellaneda, dirigé par Lucio Bruno Videla. L'air de Clarissa de la fiancée de l'hérétique, un opéra de Pasquale de Rogatis. Malgré les événements tragiques du début de l'année en Argentine, on célèbre dans l'allégresse le 4e centenaire de la fondation de Buenos Aires par l'Espagnol Pedro de Mendoza. Et c'est à cette occasion qu'est inauguré le fameux obélisque de la ville. C'est alors aussi que débutent, dans les beaux jardins du quartier de Palermo, les représentations théâtrales et musicales en plein air. Et puis le jazz argentin est à l'honneur. Le 30 novembre, dans la douceur du printemps austral, Blackie, pseudonyme de Paloma Efron, une journaliste devenue la première chanteuse de jazz argentine, interprète de la musique américaine, des extraits de Porgy and Bess, du blues et des Negro Spirituals, accompagnée par Fred Jordan et son orchestre.
It's a known southern custom when you're walking down the street to bid everyone good morning. Don't you think that sweet old southern custom to politely lift your head when you pass a pretty stranger? Is there anything wrong in there, beautiful lady, Mr. Gentleman? As I did in this colonial land, the lady and the gentleman had intentions much
matrimonial. Must be together every morning, noon and night. There's a good old solemn custom that make everything go right. Oh,
une femme formidable que Paloma Efron, dite Blackie. C'est dans cette atmosphère de fête que la vedette de musical espagnole Celia Gámez revient dans son pays natal, l'Argentine. Elle a 31 ans, elle emporte dans ses bagages des partitions de ses grands succès en Espagne, en particulier la revue musicale créée à Madrid en 1931, Las Leandras. Las Leandras, c'est le nom d'un ancien lupanar transformé le temps d'un mariage en école pour jeunes filles sages. Un vaudeville très coquin, repris à Buenos Aires, où Celia Gámez fait merveille. En Argentine, elle tourne même deux films, dont l'un qui résume bien sa réputation sulfureuse, El Diablo con Faldas, le diable en jupon, et le public argentin lui fait la fête. À Madrid, dans la rue d'Alcalá, chante-t-elle dans Las Leandras. La petite fleuriste fait les 100 pas, avec à la hanche un bouquet de tubéreuses, et le premier gominé qui passe l'invite à lui mettre la fleur à la boutonnière.
La florista viene y va y sonríe descarada por la acera de la calle de lo primero para convencer. Llévelo y si te vencí no me moveré de aquí. Luego, si alguien se lo pide, nunca se le olvide que yo se lo di. Mire que en amor suerte le han de dar. Ay, lleve usted, nada caballero, bien que quiero una mujer. Nada, no cuestan dinero, y son lo primero para convencer.
Por la calle del palacio, por la calle mi dolor,
y le di de menos fe a ponerme la tolada. alguien se lo pide, nunca se le olvida que yo sé.
Las Leandras de Francisco Alonso, toute la gouaille madrilène de Celia Gomez, née en Argentine, est devenue une gloire du musical espagnol. Elle retourne en Espagne en 1938 et prend alors fait et cause pour la sédition franquiste, ce qui lui causera bien des ennuis par la suite.
Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quilliveré pour les médias francophones publics.
L'Argentine, après les événements sanglants des grèves en début d'année, a retrouvé sa joie de vivre, envers et contre tout. Et la France devait d'être présente. En juin, Buenos Aires et Montevideo accueillent avec les honneurs le pianiste Alfred Cortot et la Comédie française. Mais c'est surtout le retour de Ninon Valin, la bien-aimée des mélomanes argentins, qui fait date. Dans la sublime saison lyrique du Théâtre Colonne, où Fritz Busch fait des merveilles avec l'opéra germanique. Après son triomphe à Londres, dans la Damnation de Faust de Berlioz, dirigée par Sir Thomas Beecham, et un accueil tout aussi chaleureux en Espagne, Ninon Valin fait des triomphes à Rio de Janeiro, à Montevideo et enfin à Buenos Aires. Du 2 au 25 août, elle chante Alceste de Gluck au Théâtre Colonne, sous la direction d'Hector Panizza. Sur scène avec elle, le baryton français Martial Singer, qui crée aussi cette année-là en Argentine Castor et Pollux de Rameau. C'est avec Alceste que Ninon Valin a vraiment fait ses adieux à l'opéra au Théâtre Colonne de Buenos Aires. Elle se consacrera à l'avenir au récital, comme ce qu'elle donne le 9 septembre à Montevideo et le 4 novembre au Théâtre Colonne, où elle interprète Gluck à nouveau, avec l'air d'Iphigénie en Tauride, un opéra qu'elle avait chanté quelques mois auparavant en France sous la direction d'Henri Tomasi. Iphigénie en Tauride de Gluck, chanté par Ninon Valin, l'orchestre dirigé par Henri Tomasi. En Argentine, pour l'écrivaine Victoria Ocampo, l'année 1936 est bénie des dieux. Elle est parvenue à convaincre Igor Stravinsky de venir diriger ses œuvres au Théâtre Colonne. Avant son arrivée, les journaux donnent régulièrement des nouvelles de son voyage, d'abord jusqu'à Rio de Janeiro, puis à Montevideo. Le compositeur Atos Palma, qui dirige alors le Théâtre Colonne, part même l'accueillir en Uruguay. Et dès son arrivée au port de Buenos Aires le 24 avril, il accorde à bord une interview au journal La Nation, où il exprime des opinions sur l'histoire contemporaine qui provoquent de vives réactions dans un pays déjà très secoué politiquement. Son soutien à Mussolini et ses attaques à peine voilées contre les républicains espagnols ont beaucoup choqué. Il reste un mois à Buenos Aires et donne plusieurs concerts de piano avec son fils sous Lima. Ils interprètent tous les deux Petrushka, le concerto pour deux pianos, la sonate et la sérénade en la. Thank you. Le duo de Hans-Peter et Volker Stenzel dans les variations du concerto pour deux pianos d'Igor Stravinsky. Et c'est à présent le musicologue Omar Corrado qui nous raconte Stravinsky en Argentine.
À ce moment-là, il était très séduit par Mussolini. Quand il arrive au port, là, à Buenos Aires, les journalistes font des interviews et le jour après, il y a des... Les journaux disent « Bon, Stravinsky est ennemi de la démocratie. » Donc, ça fait tout un scandale, en quelque sorte. Mais en ce qui concerne la musique, il reste presque un mois ici. Il dirige énormément de musique. Il joue avec son fils, parce qu'il vient avec son fils. Il joue aussi à Rosario. Enfin, la société porteña est vraiment très séduite par Stravinsky, comme si c'était un pop star d'aujourd'hui. Il a dirigé Persephone ici avec Victoria. Puis il est parti à Rio de Janeiro. Elle voulait que Victoria voyage aussi avec lui pour refaire Persephone là-bas, mais ça n'a pas marché. Après, il a invité Victoria pour rejouer Persephone au Festival de Florence. Et ça a été fait, enfin, Victoria en récitant. Après, il voulait aussi le faire avec Victoria à New York, mais à ce moment, le péronisme a refusé le passeport à Victoria parce qu'elle était à l'opposition du péronisme, donc elle n'a pas pu voyager pour le faire.
Mère, ta Perséphone à tes voeux s'est rendue. Ta tunique de deuil qu'assombrissait l'hiver a recouvré ses fleurs et sa splendeur perdue. Et vous, nymphes, mes sœurs, votre troupe assidue foule un gazon nouveau sous le bocage vert. Ô mon terrestre époux, laboureur Triptolème, Démophone, déjà le froment que tu sèmes germe, prospère et rit en féconde moisson. Tu n'arrêteras pas le cours de la saison. La nuit succède au jour et l'hiver à l'automne. Je suis à toi, prends-moi, je suis ta Perséphone. Mais bien l'épouse aussi du ténébreux Pluton. Tu ne pourras jamais d'une étreinte si forte me serrer dans tes bras, charmant Démophone, que de l'enlacement je ne m'échappe et sorte en dépit de l'amour et le cœur déchiré pour répondre au destin qui m'appelle. J'irai vers le monde ombrageux où je sais que l'on souffre. Crois-tu qu'impunément se penche sur le gouffre de l'enfer douloureux un cœur ivre d'amour? J'ai vu ce qui se passe et se dérobe au jour, et ne puis t'oublier, vérité désolante. Mercure que voici me prendra consentante. Je n'ai pas besoin d'ordre et me rends de plein gré, où non point tant la loi que mon amour me mène. Et je vais pas à pas descendre les degrés qui conduisent au fond de la détresse humaine.
Thank you.
Claude Nollier récitant, Nicolas Higueda ténor, la chorale de l'Université de Paris et la maîtrise de la radiodiffusion française, l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire dirigé par André Cluytens, c'était la scène finale de Perséphone d'Igor Stravinsky. Une œuvre qu'Igor Stravinsky a dirigée lui-même le 28 avril 1936 au Théâtre Colonne. C'était la création en Argentine. Et la récitante était son amie Victoria Ocampo, qui avait dit le texte en français. Excellente critique d'ailleurs de la presse, notamment pour Victoria. Lors des autres concerts, les 2, 9 et 17 mai, Stravinsky avait dirigé le Sacre du Printemps, Apollon Musagète, la Symphonie des Psaumes, Pulcinella, Feu d'Artifice, ainsi que le Caprice et le Concerto pour piano et orchestre avec son fils Soulima en soliste. Pendant ce temps, qu'en est-il de l'Uruguay en cette année 1936? Eh bien, la situation n'est guère meilleure qu'en Argentine. L'Uruguay est dirigé par un dictateur peu recommandable, proche d'Hitler et de Mussolini. Le poète français Jules Supervielle a invité cette année-là son ami Henri Michaud à l'occasion du congrès international du Pen Club qui se tient en Argentine. À Buenos Aires, Supervielle présente Victoria Ocampo à Michaud, puis tous deux reprennent le bateau pour Montevideo. Eh bien, c'est un entracte rythmé pour nous par une milonga uruguayenne que chante ici la grande Amelia de la Vega avec, bien sûr, une calebasse de maté à la main. Maté amargo, maté infusion amère, tu es né dans la pampa autour d'un brasero, entre la danse de l'estilo et du triste, tu es l'ami sincère qui accompagne nos galops dans le vent.
Mate amargo que naciste en la rueda del fogón, derramando tradición entre un estilo y un triste. Mate amargo que trajiste entre tu yerba sabrosa la suavidad primorosa de una mano de mujer y el embrujo de un querer con que te cebó una moza. Sos el amigo sincero con quien a solas proseando pasas las horas rodando como un galope ligero. Sos sereno consejero que escuchamos con halago y entre un trago y otro trago, mientras la pava se queja, nos hablas de cosas viejas, de la querencia y del pago. El más bravo se arrocina al paladear tu amargura. Sos sabroso como achura y querendón como china. Sos alma de la cocina que alegra reunión sencilla y mientras la llama brilla, vos vas con tierno embeleso como si fueras un beso aleteando en la bombilla. Como pájaro sin plumas, el agua no forma espuma y estás del todo lavado. Tenés siempre algún costado pa' que el hombre te aproveche, te da vuelta y sin que te eche, yerba que das de primera. Sos como vaca mañera que sabe esconder la leche.
Un texte du poète uruguayen Tabaré Regules, né à Montevideo en 1889, mis en musique par Amelia de la Vega. En Uruguay, Michaud aime l'estancia de Supervielle, où la vie s'écoule avec une douce lenteur. Il distingue parmi les proches du poète une fascinante jeune femme, fille d'un célèbre médecin uruguayen qui lui a légué une immense fortune, Susana Soca, éduquée à Paris, est une femme de lettres remarquable et ses poèmes touchent profondément Michaud. Elle a appris le russe, elle traduit Pasternak, c'est une beauté étrange et farouche. Michaud en tombe profondément amoureux. En 1938, Susana Soca quitte l'Uruguay pour rejoindre la France. Elle reste à Paris pendant toute la guerre. Elle partage son temps avec les poètes, les hommes de lettres. Elle est l'amie de Roger Caillois, de Paul Éluard et de son épouse. Mais elle ne donne plus de nouvelles à Henri Michaud, qui écrit poème sur poème et dessine beaucoup et qui se marie finalement avec une autre. Susanna rentre en Uruguay en 1948. En 1959, elle est de nouveau en France et connaît une fin tragique. En rentrant à Montevideo, son avion s'écrase à Rio de Janeiro. La mer s'agite en moi sans cesse, tranquille. La mer avance au bord des yeux déserts, sans ces choses qu'ils aimaient. Où que je revienne, elle revient aussi. Avec ses vagues, couleur de bleu brûlé, comme l'aube de mes défaites. Où que je revienne, elle revient. Et avec la mer, le jour qui pointe me caresse. C'est en 1936 que Juan José Castro a composé cette symphonie argentine dont le premier mouvement s'intitule « Arrabal, le faubourg » avec ce final dans le calme du petit jour. Juan José Castro a évoqué dans sa musique un de ces quartiers pauvres d'immigrants où la nuit, dans la danse, sourd une violence contenue comme cette rage profonde qu'il ressent lui-même face à la situation de son pays et à la guerre civile qui éclate en Espagne. Le premier mouvement de la symphonie argentine de Juan José Castro, l'orchestre de Reutlingen dirigé par Gabriel Castagna. C'est la même rage qu'on entend dans le tango que Enrique Santos Discépolo compose en rentrant de son voyage en Europe en 1936. Il est cette année-là à Paris avec son épouse, la chanteuse Tania. Leur concert a lieu au Rex sur les grands boulevards où l'affiche annonce Tania Discépolo et son orchestre argentin, musique de gauchos et de bandoneon, comme stipulé dans le contrat. Le public est alors surpris de voir entrer Discépolo en frac et Tania dans une robe de patou. Pas question d'exotisme ici, et le public est enchanté. Puis il joue au Gaumont et aux Folies Bergères. Ce soir-là, Mistinguette les présente en chantant les premières mesures du tango de Discépolo « Esta noche me emborracho ». Cette nuit, je vais me saouler. Mais le séjour en Europe est écourté à cause du soulèvement des franquistes en Espagne. C'est sur le paquebot de retour qu'ils apprennent l'exécution de Federico Garcia Lorca. Discépolo vient aussi de perdre un ami. Il compose alors son Desencanto avec toute la désillusion et l'amertume nées de ses disparitions et de cette Europe où le fascisme et le nazisme sont de plus en plus menaçants. Thank you.
pensar que en mi niñez tanto ambicioné y al soñar forjé tanta ilusión. Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas que en la cuna me cantó. Me lo ansiado, solo alcancé un amor, y cuando lo alcancé me traicionó.
C'est avec l'orchestre de Disépolo et la voix de son épouse Tania qu'on se quitte aujourd'hui. On se retrouve bien sûr dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Béatrice Trichet et Éric Boisset que l'on peut écouter et réécouter en podcast.